On aura le temps d'en discuter, d'avoir quelques questions et d'échanges avec le public, mais on va passer d'abord à la prochaine présentation qui va être la personnalisation des traitements en psychiatrie, notamment le suivi thérapeutique pharmacologique et pharmacogénétique pour rester un peu dans le même univers. En passant donc la parole au docteur Romain Guillaumeau qui est pharmacien biologiste PH à la Timone à Marseille et qu'on remercie pour sa présentation.
Ben tout d'abord, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce congrès, de m'avoir proposé donc de parler sur une thématique qui m'est chère, donc qui est la personnalisation des traitements. Donc on est sur la médecine personnalisée, mais au niveau du traitement, au niveau de la thérapeutique, puisqu'en fait, je suis donc pharmacien biologiste donc à l'hôpital de la Timone à Marseille, dans le laboratoire dans le service de pharmacologie, sur lequel on a cette activité donc de dosage de médicaments que vous connaissez sûrement, mais aussi de pharmacogénétique dont on a parlé, qui est moins connue. Et je travaille aussi, puisque je coordonne le groupe de travail suivi thérapeutique pharmacologique et personnalisation des traitements au sein de la Société française de pharmacologie. Donc, le contexte, vous le connaissez. Donc, tout à l'heure, on discutait peut-être du diagnostic, de la prise en charge par rapport à des médicaments. Nous, on va vraiment se mettre au niveau de la sphère du médicament. On a un patient qui est traité. On sait qu'on a, avec les psychotropes, entre 30 et 50% des patients pour lesquels on va avoir une réponse incomplète, inadéquate ou pas de réponse du tout. Les facteurs de réponse aux psychotropes, on les connaît, ils ont été décrits, ils sont multiples. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs socio-démographiques et il y a des facteurs pharmacologiques. Et c'est sur ces facteurs-là pharmacologiques sur lesquels on va s'intéresser ou sur lesquels on va essayer d'apporter une expertise au psychiatre en lui disant pourquoi potentiellement on peut avoir un médicament qui ne répond pas, qui répond ou qui ne répond pas. On n'aura pas toujours la réponse, mais on pourra en tout cas exclure potentiellement un facteur pharmacologique. Donc ces facteurs pharmacologiques sont des facteurs qu'on appelle pharmacocinétiques, donc c'est-à-dire le devenir dans l'organisme du médicament, on va dire des facteurs quantitatifs, on reviendra dessus, des facteurs pharmacogénétiques, on en parlera aussi, des facteurs qui sont des interactions médicamenteuses qui sont bien connues. On a vu une ordonnance par exemple de patients en entrée tout à l'heure avec une douzaine, 13 médicaments pour lesquels il y a beaucoup d'interactions, donc on peut amener une expertise pharmacologique sur ce genre d'ordonnance sur ce genre de patient. Et enfin, l'observance, puisqu'on en a déjà commencé à en parler, on va doser les médicaments dans l'organisme. Donc c'est un moyen facile aussi de gérer l'observance et de sensibiliser aussi le patient à son traitement. On pourra en reparler. Donc, c'est un petit peu complexe, mais pour vous décrire en gros, il y a une dose qui va être prescrite d'un médicament. Le médicament va se retrouver dans le sang. Et il va se retrouver dans le sang, il va pouvoir une variabilité, cette concentration sanguine. C'est-à-dire que si on prend tout le monde là dans la salle et qu'on donne la même posologie d'un médicament en 1000 grammes par kilo, par exemple, on aura tous des concentrations différentes et certaines personnes auront des concentrations extrêmes. À partir de là, puisqu'on est sur des médicaments psychotropes, donc avec une action au niveau du système nerveux central, on va avoir aussi un passage de la barrière hémato-encéphalique. Et là aussi, on aura des facteurs de variabilité avec une concentration au niveau de la barrière hémato-encéphalique qui pourrait être différente. Et enfin, le médicament, quand il va se retrouver au niveau de son site d'action, ben là aussi, on pourra avoir des variabilités sur des transporteurs, sur des récepteurs qui sont plus ou moins présents chez certains patients. Donc sur l'ensemble du circuit du médicament, du moment où on va donner un comprimé à un patient jusqu'à ce que le médicament va agir, ben on va avoir des facteurs de variabilité pharmacologique. Ben nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre en compte, de décrire ces facteurs de variabilité. C'est donc ce qu'on va faire pour une prise en charge donc thérapeutique spécialisée. Si on remet ça dans le contexte de la prise en charge d'un médicament dont on a parlé en amont, donc il y a des facteurs environnementaux, des facteurs personnels, des facteurs génétiques dont on a parlé, qui vont amener, et des facteurs biologiques, qui vont amener un psychiatre à dire « je vais donner à ce patient tel médicament ». Ben nous, on va intervenir après en faisant ce qu'on appelle en premier lieu du thérapeutique drug monitoring ou suivi thérapeutique pharmacologique en français, où on va essayer de personnaliser la posologie en disant ce patient, pour qu'il soit équilibré, qu'il n'ait pas d'effet indésirable et qu'il ait une quantité de médicaments active, il va falloir diminuer ou augmenter la posologie. Donc, comme je vous disais, c'est ce qu'on appelle de manière classique le dosage de médicaments. Le suivi thérapeutique, c'est la mesure de la concentration plasmatique ou sérique d'un médicament afin d'adapter la posologie ou les traitements. Et pourquoi les patients de psychiatrie traités par psychotropes rentre dans ce joug du suivi thérapeutique parce qu'il y a une forte variabilité des concentrations, donc une variabilité pharmacocinétique, parce qu'on a des variabilités physiopathologiques, on peut avoir l'enfant, on peut avoir la personne âgée. On a des variabilités environnementales. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de co-administration de stupéfiants. Il y a des patients qui vont, il y a beaucoup de fumeurs sur lesquels on va avoir une induction enzymatique, donc des interactions. On a des polymédications dont on vient de parler. Donc, il y a beaucoup de facteurs de variabilité pharmacocinétique. Et la majorité des médicaments psychotrophes sont caractérisés par une transformation hépatique, un métabolisme important. Et on est capable, pour tous les médicaments, de dire... Ben, il va être fortement métabolisé par telle enzyme, donc on appelle ça les cytochromes P450. Donc principalement, ceux qui vont nous intéresser pour les psychotropes, c'est le 2D6 et le 2C19. Et on va pouvoir dire, j'ai un médicament qui va être transformé par cette voie-là, en grande quantité, en petite quantité. Là, je vous ai fait un petit tableau, par exemple, pour les médicaments de schizophrénie, mais on peut l'avoir aussi pour la dépression. Et en fait, on est capable d'avoir un tableau pour l'ensemble des médicaments et de caractériser leur voie métabolique. Et plus un médicament va être transformé par une voie métabolique, plus il y a de chances qu'il y ait une variabilité pharmacocinétique importante, puisqu'on verra, dans certains cas, on peut avoir des patients qui vont métaboliser plus ou moins bien. Et enfin, on a une grosse variabilité de la réponse au traitement. Et c'est un petit peu là qui est peut-être le cœur du sujet, c'est que il y a une grosse partie des patients de psychiatrie qui ne vont pas répondre correctement à leur traitement. Et on l'a vu de manière précédente, peut-être que c'est juste parce que ce n'est pas le bon traitement ou pas le bon diagnostic. Ça, on ne pourra pas répondre. Par contre, il y a une part de non-réponse qui est due à la variabilité pharmacocinétique. Et ben nous, par nos examens, par nos analyses, par nos conseils, on va pouvoir écarter cette part de variabilité et dire que ben, si le patient ne répond pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon médicament, mais en tout cas, de manière simpliste, j'ai la bonne concentration et j'aurai la bonne concentration au niveau du site d'action. Et comme je vous le disais aussi, ça permettra de gérer les problèmes d'observance. Donc, au niveau international, on a des recommandations. Relativement en retard, on va dire, sur ces données de suivi thérapeutique. En gros, on va faire des dosages de lithium de manière classique, peut-être de carbamazépine, on va aller jusqu'à la clozapine. Après, il y a nos voisins germaniques et tout ce qui est pays, on va dire, du nord de l'Europe, qui sont beaucoup plus développés là-dessus. Et il y a des recommandations, donc qui sont sorties en 2011 et un update en 2017, sur lequel, à partir de données cliniques, donc d'études cliniques, qui sont quand même relativement nombreuses, on arrive à avoir des niveaux de recommandations avec des médicaments pour lesquels le suivi thérapeutique, donc le dosage, est recommandé. C'est le cas du lithium, par exemple, pour des questions de toxicité. Ensuite, fortement recommandé, comme la clozapine, l'olanzapine ou la clomipramine, ça veut dire qu'on a des études cliniques qui ont montré que si on prenait des patients qui avaient un suivi thérapeutique et des patients qui n'en avaient pas, donc un dosage de médicaments avec adaptation des posologies, ben on avait une meilleure efficacité chez les patients pour lesquels on réalisait ces dosages et ces adaptations de posologie. Ensuite, les médicaments pour lesquels c'est recommandé, donc par exemple les citaloprames, la aripiprazole ou la quétiapine, c'est des médicaments pour lesquels on a bien montré qu'il y avait une relation entre la concentration sanguine et l'efficacité et ou la toxicité, mais pour l'instant, nous ne disposons pas d'études qui vont vraiment montrer que si on prend un bras avec cette adaptation et un bras sans, pour l'instant, ces études n'ont pas encore été réalisées. Ensuite, des molécules pour lesquelles ça peut être utile dans des conditions particulières, c'est-à-dire potentiellement, par exemple, on pense qu'il y a eu un surdosage ou une erreur médicamenteuse ou ce genre de choses, et des médicaments comme les benzodiazépines où c'est potentiellement utile, où là, vraiment, on sait qu'on a très peu de lien entre la concentration sanguine et l'efficacité du traitement. Donc, dans ces recommandations, on va aussi savoir quand est-ce qu'on va réaliser ces dosages, parce qu'on a vu quels médicaments, mais quand est-ce qu'on va les doser. Il y a certains médicaments pour lesquels on va faire un dosage de manière systématique. C'est le cas du lithium ou c'est le cas de la carbamazépine, principalement pour des questions de sécurité. On a aussi des médicaments pour lesquels, ceux qui sont fortement recommandés, on va faire des dosages en systématique à l'instauration du traitement. En gros, on va prendre ce schéma qui est décrit là, c'est-à-dire qu'il va y avoir une initiation d'un traitement, par exemple par clozapine, sur lequel on va attendre ce qu'on appelle l'état d'équilibre pharmacocinétique, donc c'est à peu près une quinzaine de jours après administration de la dernière posologie la plus élevée, et on va mesurer la concentration sanguine du médicament. On va regarder si cette concentration sanguine est dans les bornes. D'accord, on parlera des bornes juste après. Si le patient n'est pas dans les bornes. On va pouvoir proposer potentiellement soit une diminution de posologie, soit une augmentation de posologie en fonction de son état clinique. S'il a des effets indésirables, on diminuera la posologie. S'il n'y a pas de réponse, on augmentera la posologie. Si on a un patient qui est dans les bornes, ce qui arrive souvent aussi, il peut être à la fois répondeur ou non répondeur. S'il est répondeur, on ne touche à rien. S'il est non répondeur, on va vérifier qu'on est quand même à 15 jours, un mois de traitement pour qu'on ait un effet du médicament. Mais si un patient est dans les concentrations cibles et qu'il est non répondeur, ça veut dire que ce médicament ne sera pas actif sur lui. En tout cas, au niveau des concentrations, on est bien. Ça veut dire qu'il y a un autre facteur, soit pharmacodynamique, soit par rapport au diagnostic, qui fait que ce n'est pas le bon médicament. Donc en fait, on pourra switcher et travailler sur un autre médicament. Donc le fait de mettre ces dosages sur ces molécules où c'est fortement recommandé en systématique permet en gros de diminuer l'errance thérapeutique et potentiellement de changer plus vite de traitement quand on est en face peut-être d'un patient pour lequel ce n'est pas le bon médicament. Donc ces concentrations thérapeutiques, donc elles sont disponibles, nous on les rend avec tous, on a des concentrations thérapeutiques, on va dire de population, une concentration seuil basse pour laquelle si on est en dessous, ben c'est ce qu'on appelle on a moins de chances de répondre, mais ça veut pas dire, on verra qu'il y a des patients qui ne répondent pas, et une concentration supérieure pour laquelle on a plus de chances de développer des effets indésirables. Après, on a une variabilité. Les patients sont tous différents au niveau pharmacodynamique, au niveau clinique. Donc, on va essayer de définir pour chaque patient des concentrations thérapeutiques individuelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un patient a une concentration un peu faible, mais qui répond correctement, ben en fait, ça sera sa concentration basale. Et ça, c'est très important, puisqu'en fait, si on revoit le patient 2 mois après et que sa situation s'est détériorée, on va pouvoir refaire un dosage. Et si là, on se retrouve avec une concentration faible, on pourra comprendre que ça vient d'une variabilité pharmacocinétique. Si la concentration est bonne, il faudra envisager d'autres solutions. Donc ensuite, il y a d'autres indications, on en a parlé, l'observance. Le cas qui vous arrive souvent, qui peut arriver souvent chez les patients psychiatriques, c'est un patient qui a posologie logiquement efficace et qui va être inefficace. Ben, on va doser pour voir s'il n'a pas une concentration faible. Un patient qui a posologie normale va développer des effets indésirables. Pareil, on va faire un dosage pour vérifier qu'on n'est pas sur des concentrations élevées et qu'en fait, une adaptation de posologie ne suffirait pas pour avoir un traitement efficace et sans effet indésirable chez le patient. Et puis après, d'autres situations comme les populations particulières, par exemple les enfants, les personnes âgées sur lesquelles on manque de données. Donc là, on a parlé, donc ce que vous dites, le suivi thérapeutique pharmacologique, donc le dosage de médicaments. Depuis quelques années, s'est développée aussi une autre activité qui est plus récente, qui s'appelle donc la pharmacogénétique, c'est-à-dire qu'on va étudier les mutations génétiques qui vont avoir un impact sur l'activité du médicament. Donc, ce qui s'est développé le plus, c'est de faire ces dosages de pharmacogénétique pour essayer d'expliquer pourquoi on a des patients qui ont des concentrations inadéquates. Par exemple, on en parlera, vous avez entendu parler, il y a des patients qui vont être dits métaboliseurs rapides d'un médicament, donc potentiellement ils auront des concentrations faibles, et on utilise toujours la pharmacogénétique comme étant pour caractériser la variabilité d'un patient. Et ce qui peut se développer de plus en plus et auquel on réfléchit, c'est de travailler un petit peu comme ça a été présenté précédemment, c'est-à-dire de faire des tests de pharmacogénétique en amont du médicament pour aider le clinicien à lui dire potentiellement sur les premiers traitements, il y a peut-être des traitements qui vont être à éviter, puisque c'est des traitements, des médicaments que le patient va potentiellement mal éliminer, mal métaboliser ou trop métaboliser qui ne seront pas actifs. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire des tests de pharmacogénétique en amont de la prise en charge et proposer un éventail de médicaments adaptés aux cliniciens. Donc pour reprendre cette notion de pharmacogénétique de manière un peu plus générale, qui est très développée actuellement en cancérologie, mais comme on va voir qui se développe de plus en plus en psychiatrie, si on a une population avec des personnes qui sont différentes, on a la population verte, c'est-à-dire que c'est la population classique, puis par exemple on va pouvoir avoir des patients intermédiaires qui sont les patients en bleu et des patients pour lesquels eux vont avoir un déficit d'une enzyme qui vont peu métaboliser, qui sont les patients en rouge. Si on a une approche conventionnelle du traitement et qu'on leur met tous la même dose, ben qu'est-ce qui va se passer ? Les patients donc en rouge qui ne transforment pas, qui métabolisent peu le traitement, vont avoir des concentrations très élevées. Et donc, comme on peut voir avoir, on va avoir une toxicité très élevée. Donc le principe, c'est de dire quand on sait ça, ben, finalement, on va individualiser les posologies pour que les patients qui sont donc ce qu'on appelle pour métaboliseurs vont avoir des posologies plus faibles et on va se retrouver avec des patients qui vont tous avoir les concentrations cibles et potentiellement des patients qui auront tous peu de toxicité. Donc, les pharmacogènes qui vont nous intéresser. Donc, sur les patients de psychiatrie, donc sur certains médicaments, il y a des liens avec l'immunité, ce qui est moins le cas chez nous. Ça va être ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, soit sur la pharmacocinétique, donc principalement soit sur le métabolisme du médicament ou soit sur la distribution du médicament, c'est-à-dire le passage de la barrière hémato-encéphalique au niveau du système nerveux central, soit au niveau pharmacodynamique, où là, vous verrez, c'est plus des notions de recherche, sur les récepteurs, donc par exemple la noradrénaline, la sérotonine, ou sur les transporteurs, au niveau du mécanisme d'action des médicaments. Donc, là où on a le plus d'informations au niveau des gènes d'intérêt, c'est les gènes d'intérêt pharmacocinétiques. On en parlera. Nous, on est capable maintenant de proposer ce qu'on appelle un panel psychiatrie de pharmacogénétique, sur lequel on va travailler principalement avec deux enzymes, qui sont le cytochrome P450 2D6 et 2C19, qui vont transformer et métaboliser la majorité des médicaments psychotropes. Aussi, le CYP 1A2, qui est principalement d'intérêt pour la clozapine et la norclozapine. Et derrière, bon, d'autres qu'on peut utiliser, qu'on n'utilise pas encore en clinique, mais qu'on continue à regarder en recherche, qui ont moins d'intérêt. Et puis sinon, dans ce qu'on appelle les gènes qui peuvent moduler l'action de la P-glycoprotéine, qui est en fait la protéine de transfert, une protéine d'efflux qu'on va retrouver au niveau de la barrière hémato-encéphalique, les patients qui présentent moins de P-glycoprotéine auront plus de concentration du médicament au niveau du système nerveux central, puisque c'est une protéine d'efflux qui va donc récupérer le médicament du système nerveux central et le remettre au niveau du sang. Donc, nous avons des gènes d'intérêt qui sont définis. Et donc, pour le métabolisme, ben, comme je vous l'expliquais, par exemple, là, on est sur ce qu'on peut retrouver dans une population classique au niveau du 2D6. Ben, on va se retrouver avec 80% de la population qui est ce qu'on appelle extensive métaboliseur, donc métaboliseur normal, 10% qui est métaboliseur intermédiaire, donc en fonction des médicaments, on peut avoir un impact ou pas, 7% des patients qui sont donc pour métaboliseurs, qui vont peu ou pas métaboliser, donc ils vont se retrouver avec des concentrations faibles et potentiellement des effets indésirables, et 3% des patients qui sont ultra-métaboliseurs, qui vont donc se retrouver avec des concentrations très faibles de médicaments et donc un médicament inefficace. Donc, à partir de là, donc nous, on avait, donc c'est une activité, j'en parlerai en conclusion, qui est réalisée donc au laboratoire de pharmacologie en routine. Donc, on a fait une petite étude rétrospective entre 2011 et 2005 sur 499 patients, 279 patients traités pour schizophrénie et 220 pour dépression. Et en fait, en regardant les ultra-métaboliseurs et les pour-métaboliseurs, donc ce qu'on appelle les métaboliseurs extrêmes, c'est ceux qui nous intéressent le plus. C'est ceux qui potentiellement, où on va avoir un impact clinique du fait qu'ils métabolisent peu ou trop. Et on a retrouvé quand même 13% de métaboliseurs extrêmes dans la population étudiée. Donc, vous verrez, après, je vous présenterai les études cliniques. On n'a pas relié ça à la clinique, mais ça montre que quand même, cette variabilité pharmacogénétique peut expliquer une partie de la variabilité de réponse au traitement chez les patients de psychiatrie. Donc les études cliniques, il y en a plein, puisque vous verrez après qu'on a des niveaux de preuves. Donc les avancées au niveau d'études cliniques, les niveaux de preuves ne sont pas aussi loin que les données que j'ai présentées tout à l'heure avec le suivi thérapeutique pharmacologique. Mais on a des études comme ça, où par exemple sur la gauche, vous voyez, ils ont regardé des patients pour lesquels on avait observé des effets indésirables sous des traitements psychotropes, pour lequel le métabolisme était géré par le 2D6. Et en fait, on se rendait compte que pour les patients qui avaient des effets indésirables, la part de patients qui étaient métaboliseurs lents était beaucoup plus importante que dans les patients qui ne développaient pas d'effets indésirables. Donc ça veut dire que ces patients métabolisés mal avaient des concentrations plus élevées de médicaments, et donc on arrivait à des effets indésirables. Et on voyait aussi que ces patients, donc qui métabolisaient pas bien le médicament, ben pour lesquels on avait des changements de thérapeutique beaucoup plus précoces. Pareil, on a des études qui ont permis d'abord chez l'animal de montrer si les médicaments étaient substrat ou pas de cette PGP. Donc par exemple, on voit que le citalopramelé, la vanlafaxine-lait, le métabolite de la valafaxine aussi, la mirtazapine beaucoup moins. Donc on va pouvoir avoir des données pour dire oui, un polymorphisme génétique, une mutation génétique au niveau de la PGP pourra impacter tel ou tel médicament. Donc tout ça a été aussi revu dans des études cliniques où on peut voir que si on prend l'ensemble d'une population et qu'on regarde s'ils sont déficients ou pas de la PGP, sans regarder quel traitement ils ont eu, on va pas voir de variation au niveau, par exemple, de la rechute. Mais si par contre on rentre dans les détails et qu'on se concentre sur les médicaments qui sont substrats de cette protéine, ben on va se remarquer, c'est ce que vous voyez par exemple sur le graphique B, qu'on a des patients qui vont avoir un temps de rémission qui sera plus court. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'il faut qu'on arrive à avoir des patients, à connaître leur polymorphisme génétique, et derrière, on a les médicaments sur lesquels on connaît leur voie métabolique, s'ils sont substrats de telle ou telle protéine, pour pouvoir en fait, après, proposer une carte en fonction de chaque patient et en fonction de la pathologie au clinicien pour qu'il puisse adapter sa thérapeutique. Donc on a des recommandations. Donc au niveau donc ça c'est les recommandations FDA. Au niveau antipsychotique et antidépresseurs, donc les recommandations actuelles, ce sont des recommandations soit de faire des dosages, soit de surveillance clinique sur les antidépresseurs et les patients qui présentent des métaboliseurs lents. Quand on prend les revues de la littérature, on a quand même des données très précises maintenant. Par exemple, pour un patient qui va être métaboliseur lent au niveau du 2D6, on va pouvoir recommander pour la rifiprazole de commencer avec une dose moitié. D'accord ? Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des dosages pour vérifier qu'on est bien dans les bornes. Mais ça permet d'avoir une adaptation, une personnalisation des traitements beaucoup plus précoce. Au niveau français, il y a un réseau national de pharmacogénétique dans lequel travaillent deux de mes collègues marseillais qui travaillent beaucoup là-dessus, donc qui sont Sylvie Caranta et Julien Dupouet, sur lequel ils ont fait des recommandations sur les molécules sur lesquelles la pharmacogénétique est la plus avancée. Et il y a donc une recommandation qui a été faite sur les antidépresseurs. Donc vous pouvez voir en bas, principalement donc, ce sont sur le 2C19, donc c'est une recommandation avec un niveau de preuve modéré, pour les patients métaboliseurs lents, sur lequel on va proposer une diminution de 50% à l'initiation du traitement et une recommandation de suivi thérapeutique, donc de dosage obligatoire. Et cette recommandation chez les métaboliseurs lents, quand on parle donc des médicaments qui sont substrats du 2D6, va être élevée et on va éviter l'utilisation des antidépresseurs tricycliques par risque de mauvaise tolérance chez ces patients. Et si vraiment on veut les maintenir, ben on va recommander un dosage de manière systématique et une adaptation de dose de moitié en début de traitement. Donc, si on prend la discipline de pharmacogénétique au niveau de ces données-là, c'est une discipline qui est quand même plus en devenir. Donc, on va encore avoir des données supplémentaires. Là, on a des données de recommandation que sur les antidépresseurs, mais de plus en plus, on va avoir des nouvelles données. C'est peut-être un petit peu ça le but de la suite. Au niveau des gènes d'intérêt pharmacodynamique, j'irai un petit peu plus vite. Pour l'instant, on est limité à la recherche, c'est beaucoup moins, c'est pas organisé en tout cas en France au niveau de la pratique clinique. Donc ce sont des transporteurs ou des récepteurs des métabolismes sérotoninergiques, des systèmes dopaminergiques ou adrénergiques sur lesquels va avoir lieu le mécanisme d'action d'un médicament. C'est vrai que si un médicament va se fixer sur un récepteur mais que ce patient par exemple ne présente pas ce récepteur, c'est évident qu'on n'aura pas d'action du médicament. Ou s'il va inhiber une pompe de recapture de la sérotonine, si ce patient est déficient sur ces pompes de recapture, on n'aura pas d'action. Donc là, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très pertinent, parce que ça permet de décrire toute la chaîne d'action du médicament. Et pour l'instant, on est au niveau des études. Il y a pas mal de données qui ont commencé à montrer des choses, mais on n'a pas de recommandations au niveau clinique. Donc là, par exemple, on a une revue relativement récente qui montre bien qu'on a des polymorphismes de gènes qui sont reliés donc à la pharmacodynamie de ces psychotropes qui vont être liés à la réponse au traitement ou qui vont être liés à l'apparition des effets indésirables. Donc pour conclure, tout d'abord sur la pharmacogénétique. Donc comme je vous disais, c'est une discipline qui est en pleine évolution. Sur lequel il y a deux gènes donc, qui correspondent à deux enzymes du métabolisme qui ont été identifiées, qui sont donc le 2D6 et le DC19 pour les patients psychotropes. Il y a énormément de données au niveau de la littérature. C'est quelque chose où on a énormément de données. Et en même temps, ça se développe beaucoup puisqu'on a tout le développement donc, de la génétique et de la biologie moléculaire. Et surtout, c'est vraiment un phénomène d'organisation. Parce que nous, dans les laboratoires de pharmacologie, on avait presque nos petits appareils qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on peut faire ou ce qui a été décrit maintenant dans les laboratoires de biologie moléculaire ou ce genre de choses. Donc maintenant, on s'est structuré en fait, en travaillant avec des laboratoires de biologie moléculaire qui vont nous faire l'analyse et nous donner les mutations. Et nous, on va travailler sur l'activité enzymatique derrière et la comparer par rapport au traitement du patient et faire une interprétation pharmacologique. Donc on a vraiment une collaboration entre les psychiatres, les pharmacologues et la biologie moléculaire. Maintenant, par exemple, nous, on a, depuis un an, on travaille avec une plateforme de NGS, ce qui nous permet d'avoir, de génotyper l'ensemble. On a créé un panel de psychiatrie, par exemple, où on a le 2C19, le 2D6, le 1A2, si besoin, d'autres enzymes du métabolisme et la P-glycoprotéine, qui nous permettent d'avoir très rapidement tous les résultats. De manière générale, sur la thématique, pour conclure, donc, je vous ai présenté des outils finalement, sont relativement simples pour personnaliser les traitements chez les patients de psychiatrie. Ces premiers outils, c'est le suivi thérapeutique pharmacologique, donc des dosages. Les dosages, je vous le mets en bas, ce sont des actes de biologie médicale qui sont à la nomenclature. C'est donc ce qu'on appelle un B100, ça coûte 27 euros et c'est remboursé par la Sécurité sociale. Donc ce sont quand même des choses qui sont relativement simples, relativement faciles à mettre en place. Mais après, c'est quelque chose qui, à part pour certaines molécules, comme je disais, lithium, carbamazépine, clozapine, n'est pas partout mis en place. Et c'est sûrement là-dessus où il faut travailler. Donc nous, ça fait 2-3 ans à Marseille où on a développé ce suivi thérapeutique et donc cette personnalisation des traitements avec les cliniciens. Mais il y a plein de centres en France pour lesquels les laboratoires ne font pas les dosages. Bon, après, ils peuvent être envoyés. On a un réseau national. C'est des choses qui peuvent se mettre en forme. Et au niveau de la pharmacogénétique, comme je vous disais, on a besoin d'études supplémentaires pour vraiment déterminer les niveaux de preuves. Parce que c'est là que c'est important, surtout au niveau de la pharmacogénétique. Vous avez vu, au niveau du thérapeutique, j'ai pu vous décrire en gros où je pourrais vous recommander dans des contextes. Il faut faire un suivi thérapeutique d'un patient, vous êtes obligé de le faire, il faudrait le faire, ça serait bien, ou alors c'est pas du tout la peine. Au niveau de la pharmacogénétique, on n'a pas encore de niveau de preuves. Soit on fait un choix et on fait un génotypage de tous les patients. D'accord, ça coûte 870 euros par patient, c'est donc à la liste complémentaire, donc c'est pas remboursé par la Sécurité sociale, mais on se dit ça vaut le coup, on parlera du coup justement après. Soit on se dit, ce qui est peut-être le meilleur, c'est on arrive à caractériser quelles sont les populations qui vont avoir besoin de ce génotypage, et à ce moment-là on le fera dans certaines populations. Et là on est un peu là, par exemple on a fait une petite étude pilote dans une population donc d'UMD, d'unité de maladie difficile, et les 13% que je vous ai présentés de polymorphisme extrême, bah, est passé à 35%. D'accord ? Donc en effet, ça paraît cohérent, mais on pourrait essayer de trouver des facteurs cliniques, par exemple, qui diraient bah, ce patient, il aura besoin d'avoir un génotypage, comme ça, on sait qu'on améliorera sa prise en charge. Et derrière ça, ce qu'on est en train de voir pour monter, c'est aussi des études pharmaco-économiques, bien sûr des études qui vont montrer l'intérêt du traitement sur la prise en charge des patients, mais aussi sur le côté pharmaco-économie, parce que le génotypage a un coût de 870 euros, certes, mais par rapport à la prise en charge d'un patient de psychiatrie, il y a des chances que ça ne représente pas grand-chose au final. Voilà, ben je voudrais remercier Sylvie Caranta et Julien Dupouet, qui, comme je vous disais, sont les deux biologistes qui travaillent avec moi principalement sur ce domaine-là et qui m'ont prêté toutes ces diapos. Et je vous remercie pour votre attention.